Bonjour à tous, c'est Julien et vous écoutez bien Analyse F1, le podcast 100% Formule 1. Aujourd'hui, je vais parler du futur de la Formule 1 via tout d'abord des actes concrets qui ont été pris par les instances de la Formule 1 et aussi j'en parlerai via la voix des pilotes. Je vais porter la voix des pilotes dans cette émission comme j'aime bien le faire tout au long de mes podcasts, parce que selon moi, la voix des pilotes est très importante. Et là, plus qu'avant, on a pu entendre les pilotes parler durant les derniers jours et dernières semaines. Donc ne vous en faites pas, je ne me suis pas terré dans une grotte. J'ai bien regardé le Grand Prix de Monaco et j'ai suivi l'actualité autour du groupe stratégique et des nouveautés qui vont être mises en place à l'horizon 2017, mais je ne vais pas en parler dans ce podcast et probablement pas dans le prochain. Pour les nouveautés qui vont peut-être arriver en 2017, j'en parlerai quand ce sera vraiment quand ce sera bien ficelé, c'est-à-dire quand la commission F1 sera passée par là et aura donné son aval. Aujourd'hui, je vais parler que de 2016, d'un acte qui a été pris pour 2016, qui n'est pas encore validé par la commission F1, mais comme ça concerne la saison prochaine, bon, je pense qu'il y a des grandes chances que cette décision soit entérinée incessamment sous peu. Et donc, quelle est cette décision? Eh bien, tout simplement, l'année prochaine, les écuries pourront choisir à chaque course entre n'importe lequel des 4 types de pneus, tout simplement. Donc, vous le savez, actuellement, en 2015 et depuis quelques années, depuis que Pirelli est en Formule 1, à chaque course, à chaque Grand Prix, c'est Pirelli qui a la décision des trains de pneus, des deux trains de pneus à emmener le week-end. Donc, par exemple, au Grand Prix de Monaco, que vous avez sûrement suivi le week-end dernier, eh bien, les deux trains de pneus emmenés par Pirelli étaient le train super tendre et le train tendre, super soft et soft, donc. Et donc, il en existe 4 en tout, pour rappel, donc super soft, soft, medium et hard. Bon, et il faut rajouter intermédiaire et pluie, mais ça, c'est pour les conditions assez marginales. Donc voilà, et donc la saison prochaine, entre ces 4 trains de pneus, eh bien, les teams auront sûrement la possibilité, si la décision est entérinée, de choisir entre ces 4 types de gommes. Donc, des stratégies sûrement différentes à envisager, des prises de risques de la part de certaines écuries. Il faudra bien connaître également de quelle façon se comporte la voiture concernant les pneumatiques, ça va être très important. Puis ça va aussi avoir une influence sur les réglages, etc., sur la gestion en course, sur plein de choses, sur également prendre des risques pour les qualifications, car on sait que c'est difficile pour dépasser en course. Ça va dépendre des circuits, bref, ça peut avoir son importance, ça aura son importance à coup sûr si on voit ça en 2016 et on verra des courses peut-être un peu plus animées en espérant que ce soit pas n'importe quoi non plus. Donc comme je l'ai dit, c'est pas encore définitif, hein. Ça a été validé par le groupe stratégique, ce qui est un premier pas très important, mais il reste la commission F1 qui doit s'exprimer avant de d'y inscrire dans le règlement définitivement pour 2016. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? On pourrait se dire, oui, mais avant, ça aurait pu être possible. En plus, ils auraient pu y penser. Pirelli, ça aurait évité qu'ils fassent des choix, en plus, pas forcément bons, parce que les premières années où Pirelli est entré en F1, les choix de gomme n'étaient pas forcément pertinents. Hein. On se souvient d'années, la première année était une année plutôt de test. La deuxième année, ils se sont ajustés et ils ont plutôt choisi les bonnes gommes correspondant au circuit. Et puis la troisième année, ils ont essayé de renouveler leurs gommes. C'était un peu n'importe quoi. 2013, on a vu aussi des petits scandales éclater. Sans mauvais jeu de mots, je n'ai pas fait exprès. Mais c'est vrai que le mot éclater peut rappeler des souvenirs qu'on n'aurait pas envie de se rappeler, ça c'est clair. Donc voilà, Pirelli avant aurait pu faire ce choix, ça aurait évité peut-être des problèmes de sécurité. Quoique, ça aurait peut-être pas évité des problèmes de sécurité parce que justement, Pirelli n'a pas offert le choix aux écuries avant et la F1 n'a pas offert ce, ce choix car c'était trop dangereux pour des problèmes de sécurité. Pirelli a toujours avancé ça, qu'il y avait des problèmes de sécurité qui sont... Et Pirelli avance encore les problèmes de sécurité d'ailleurs aujourd'hui après la réunion du groupe stratégique. Mais après cette réunion, Pirelli ne s'est pas montré réfractaire non plus. Ils ont rappelé le fait qu'il y a un problème de sécurité lié au fait que des écuries puissent emmener par exemple les pneus super tendres sur une piste très abrasive. Ça c'est clair, mais ils ont rappelé ça tout en disant qu'ils prenaient acte de la décision du groupe stratégique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été non plus en mode ah non non on veut pas de ça, c'est pas possible, on va mettre pression à la commission F1 pour pas que cette règle soit appliquée. Non, pas du tout. Donc à mon avis, c'est que Pirelli a les moyens de faire en sorte que les problèmes de sécurité n'en soient pas, tout simplement. Et ce serait bien qu'ils agissent en conséquence. Pourquoi ? Et ben, ça sera obligé d'ailleurs, si c'est entériné, qu'ils agissent en conséquence. Il ne faut pas se leurrer, ça sera obligé, sinon ce sera très grave. Il y aura de la danger pour la Formule 1, du danger pour la Formule 1. Ça ne donnera pas des courses marrantes à voir du tout, etc., etc. Et actuellement, on voit quand même des pneus qui ont une fenêtre très courte, voire même trop courte en performance. On le voit, les pilotes se plaignent souvent, il y a une fenêtre de performance et après les pneus descendent très rapidement. Ils s'usent trop vite en plus en début de course quand il y a le plein. Bon, ça va peut-être être réglé en 2017, mais en attendant, Pirelli a fait peu de choses pour qu'en début de relais... ces pneus soient très compétitifs et durent longtemps. Hein. On perd beaucoup de temps autour sur le premier relais. Que ce soit dur ou tendre, d'ailleurs, on le voit bien cette année avec les pilotes qui choisissent des stratégies décalées en commençant avec les pneus durs. Généralement, ça porte pas ses fruits parce que le premier relais est un relais très court à cause de la monoplace qui est plus lourde et les pneus tiennent pas, hein, tout simplement. Mais on a vu pire, hein, certaines années... On a vu des pneus qui, en début de saison, étaient tellement à la ramasse qu'ils duraient 4 tours. Hein. On se souvient d'arrêt au stand très tôt, c'était très prématuré. Et c'était pas beau à voir, quoi. Ça donnait pas une bonne image des pneus. Je rappelle que les pneus, enfin, selon ma conception des pneus, c'est qu'on ne doit pas en parler. Normalement, on ne devrait pas en parler quand on analyse une course ou quoi. On devrait très peu en parler. On devrait parler de la gestion des pneus, à la limite, un petit peu, ça c'est clair. Mais ils doivent avoir un rôle, on va dire, mineur. Ils doivent permettre aux pilotes de s'exprimer. Ils doivent permettre aux écuries aussi de faire des stratégies, de faire leurs stratégies. Et ne doivent pas être des contraintes, tout simplement, pour la course. Alors que, d'année en année, à chaque fois, on peut trouver à chaque fois une chose à redire chez Pirelli. Une ou deux choses, bon, il y a certaines années c'était pire que d'autres, mais voilà, c'est pas parfait. Donc qui sait, peut-être que cette nouvelle réglementation potentielle pourrait obliger Pirelli, ça servirait d'excuse à Pirelli pour tout simplement changer leur gomme et améliorer leur gomme, que ce soit en performance. En fenêtre de performance et aussi en surchauffe, hein, parce que cette saison on entend beaucoup parler des surchauffes de pneus quand deux pilotes se suivent, et selon moi c'est très grave qu'on en parle beaucoup. À mon avis, bon, il y a un peu une surenchère autour de ça. Je pense la dernière fois lors d'un podcast j'avais dit que c'était plus ou moins du bullshit, plus ou moins faux qu'il y avait de la surchauffe derrière un pilote, mais ça ne l'est pas vraiment, il y en a, mais je pointais du doigt Nico Rosberg qui, sous couvert de cette excuse, de cet argument, ne tentait pas le tout pour le tout pour aller doubler Hamilton, et donc ça vous est vaincu avant même de se rapprocher d'Hamilton. Donc selon moi, ce problème de surchauffe existe, mais il ne faut pas non plus en faire une surenchère. Mais le fait qu'il existe, c'est quand même grave, parce que c'est vrai qu'à la radio, on entend pas mal de pilotes le dire, et ça pose quand même pas mal de soucis, hein, pas mal de soucis aux pilotes pour attaquer, pour trouver la bonne fenêtre de performance pour attaquer. Et ensuite, ça retombe, et ça nuit à la course, inévitablement, quand même. Ça nuit quand même à la course, il faut bien l'admettre, et il faudrait que ce soit réglé. Et donc, Et donc, si cette règle peut faire bouger les choses, parce que Pirelli sera obligé d'améliorer ses gommes et tout, eh bien, ce serait très bien, ce serait très bien pour la Formule 1 qui en sortirait grandi, tout simplement. Et ensuite, autre chose que doit s'assurer Pirelli doit s'assurer que la sécurité est là également. C'est très important, et puis c'est le point le plus important sur lequel ils mettent l'accent hein, quand ils parlent de cette réglementation, du choix des quatre types de pneus en 2016 pour chaque écurie. Eh bien, la sécurité est un point clé à avoir. Ensuite, d'un point de vue de la course et des qualifs, qu'est-ce que ça pourrait donner? Je pense que ça pourrait occasionner des bonnes surprises en qualification d'avoir ce règlement. Des bonnes surprises en qualification. Par exemple, certains disaient que des petites écuries pourraient prendre le risque de prendre des pneus super tendres, et par exemple super tendres et médiums, admettons, pour faire un super temps au qualif et après en course, essayer de faire quand même quelque chose, jouer les points. Bon, ça pourrait être pas mal. Bon, cela dit, ça pourrait être bien, certes, mais il faudrait pas que, d'une part, ça creuse encore plus l'écart entre les monoplaces qui sont performantes dans la gestion des pneus et les autres, et d'autre part, il faudrait pas que ce soit du grand n'importe quoi au niveau stratégique, qu'on s'y perde, que ce soit un millimélo pas possible de stratégies différentes, et qu'au final la course soit un peu factice, parce que évidemment si une écurie choisit par exemple super tendre et tendre, et qu'il y en a une autre qui choisit tendre et dur, admettons, eh bien en course évidemment on va avoir plus de dépassements. Mais quelque part, c'est parce que une écurie aura choisi d'être plus performante en qualif, et bon, et théoriquement, il n'y aura pas trop de bataille parce que cette écurie saura qu'elle n'est pas dans la même stratégie que l'autre qui est dans une stratégie plus course. Et voilà, donc il peut y avoir aussi ce genre de petites embrouilles, selon moi, qui pourraient ne pas faire du bien à la course. Mais bon, à voir. Il faut vraiment attendre de voir l'application vraiment de ce procédé. Je pense qu'ils n'y ont pas pensé. Comme très souvent, on sort des règles sans trop penser à ce que ça va donner concrètement en course. Hein. On le voit très fréquemment avec certaines règles. Hein. Et cette règle ne fait pas exception. Donc, attendons de voir. Pour l'instant, je suis plutôt... disons que si jamais cette règle est mise en place, on va vraiment voir si Pirelli est capable de s'adapter et est capable direct d'être efficace. Et à mon avis, il n'y aura pas de seconde chance parce qu'en 2017, on annonce pas mal de changements. Et puis, c'est en 2017 qu'il y aura peut-être un nouveau manufacturier pneumatique, peut-être un remplaçant de Pirelli, on ne sait pas. Donc, 2016 est une année quand même assez clé pour Pirelli qui doit mettre les chevaux, hein, tout simplement. Mais voilà, selon moi, mis à part cette mise en place du choix des quatre types de pneus en 2016 pour chaque Grand Prix, il y a d'autres priorités quand même qui sont plus importantes dans la F1 et on n'en parle absolument pas. Alors il y a pas mal de choses qui ont été discutées lors de la réunion du groupe stratégique, pas mal de choses hein, concernant la course et tout, mais selon moi on ne discute pas de certaines choses qui me tiennent à cœur personnellement et qui selon moi font que la course est un peu mise à bas, on va dire. Hein. Mais bon, il y a encore de la course, donc je ne m'en fais pas, mais quand même. Alors, on n'a pas parlé du DRS, hein, d'essayer d'améliorer le système et tout. On ne parle pas des voies de dégagement, qui sont une vraie plaie pour les pilotes. Même si au Grand Prix d'Espagne, il y a une très bonne décision de la direction de course qui a dit que les pilotes ne seraient pas pénalisés s'il sortait trop large et à fond au virage... c'est lequel ce virage? Le virage qui précède la grande ligne droite DRS, pas la ligne droite de départ-arrivée, mais l'autre. Dans ce virage-là d'entrée, eh bien, on a vu de nombreuses fois les pilotes mettre les quatre roues en dehors des vibreurs et les pilotes n'ont pas été pénalisés. C'était une décision de la direction de course. Donc ça, c'est un truc qui irait dans le bon sens, mais il faut aller plus loin, selon moi, et vraiment... vraiment réfléchir autour de ces voies de dégagement qui sont anti-course, tout simplement. il faut réfléchir à propos de plein de choses, hein. Tout ce que je dis dans les podcasts généralement et qui sont négatifs, il faut réfléchir à propos de ça. Les pénalités, mais parlons-en des pénalités. Oh là là, le Grand Prix de Monaco au niveau des pénalités, oh là là. Oh, rien que d'y penser, j'en ai de l'urticaire. Oh, j'ai des boutons partout, là là, je me meurs. Et avant que je meure et le temps que je mette de la pommade, eh bien je vous invite à écouter une petite pause musicale. C'est de nouvelle fois le Project Airstream qui a composé la musique Hockenheim. Hockenheim qu'on ne verra pas cette année. Oh là là, je suis méchant. Franchement, c'est dommage, hein, vous le savez. Vous savez ce que je pense du Grand Prix d'Allemagne qui n'est pas là. C'est quand même assez dommage. Mais bon, il reviendra l'année prochaine, on y croit. Allez, Project Airstream, Hockenheim, bonne écoute et à tout de suite. Allez, nous sommes de retour dans Analyse F1 pour la suite F1 de ce podcast. Hein. Ça fait beaucoup de podcasts depuis le début. Hein, quand je regarde le dossier où je mets tous mes podcasts sur mon ordinateur, je commence à scroller, à utiliser le scroll de la souris quand même hein, pour trouver des podcasts et aussi pour me souvenir de ce que j'ai fait. C'est pas facile hein, parce que je pense beaucoup autour de la F1. Mais des fois, je me dis, est-ce que je l'ai dit dans un podcast hein? Mais généralement, j'en ai parlé. Mais bon, il y a toujours quelque chose à dire autour de la Formule 1. Et pour cause, il y a toujours quelque chose à dire. Et les pilotes aussi ont quelque chose à dire. Et là, je suis content. Ces derniers jours, vraiment, ces dernières semaines, on a été globalement... J'en ai pas parlé au début, mais j'aurais pu commencer avec ça. Ça a été quand même deux semaines globalement, plus une semaine que deux, mais bon, en gros deux semaines importantes pour le futur de la Formule 1, avec les actes, évidemment, via la réunion du groupe stratégique et les décisions prises, et les langues qui se délient autour de cette réunion du groupe stratégique, autour de la F1, autour de la course, autour des fans. Et là, j'étais vraiment content que ces langues qui se délient concernent les pilotes. J'en parle très souvent. J'en parle très souvent de la vie des pilotes qui est primordiale pour que la F1 se rapproche enfin de la course et ne s'en éloigne pas comme c'est un peu le cas d'année en année. Hein. Il faut bien le dire, il y a quand même pas mal de décisions qui sont prises et qui n'ont pas de sens tout simplement. Et là, les pilotes ouvrent leur bouche tout simplement pour dire ce qu'ils pensent. Et c'est en plus les darons, les pilotes les plus expérimentés qui parlent. Donc, il y a eu des déclarations et il y a eu aussi quelque chose de très important, un sondage qui a été mis en place à destination des fans et des passionnés de F1 et même des profanes. Hein, quand on voit le sondage, même les profanes peuvent répondre à ce sondage afin de tout simplement que la F1 puisse voir ce que pensent les gens de la F1 et ce qui peut être fait autour. J'en parlerai en deuxième partie de cette chronique. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses, avec une déclaration tout d'abord de Felipe Massa. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux et j'avais dit que j'en parlerais dans le prochain podcast. Eh bien, voici la déclaration de Felipe Massa qui m'a fait énormément plaisir. Il a dit « Le pilote doit être à l'intérieur des décisions ». En plus, il a ajouté qu'il a parlé à Jean Todt. Il a parlé à Jean Todt, son ancien patron à Ferrari, hein, donc, qui est président de la FIA, hein, Jean Todt, je le rappelle, afin de lui dire sa façon de penser des courses et de ce qu'il faudrait faire. Voilà, il a donc ajouté également ceci. Mais je pense que c'est important que les pilotes soient ensemble dans les réunions stratégiques et sportives pour décider du futur de la Formule 1, pour décider le futur de la Formule 1 et pour changer les choses afin que ce soit plus intéressant, beaucoup plus intéressant pour la course et les fans. Pour la course et les fans. Très important. La fin de la phrase est très importante. Il met la course en avant et les fans. Alors que souvent la FIA, ou on va dire les instances politiques de la Formule 1 et les groupes, on va dire les sociétés qui ont un intérêt à trouver dans la Formule 1, un intérêt financier, parlent des fans comme ça de façon un peu désinvolte, mais sans mettre en avant la course. Et là, Felipe Massa, là, il ouvre la boîte de Pandore, j'ai envie de dire, et il y a la course dedans, tout simplement, et là, je suis très content. Et il a aussi déclaré, nous sommes en train de pousser pour qu'il y ait les pilotes dans les réunions, ce qui est important. Et ça, c'est très bien, les pilotes qui commencent à bien se rendre compte que, en course, il y a des choses qui vont pas, qui ne leur plaisent pas, parce que quand ils pilotent, parfois ils se retrouvent dans des situations qui sont contraires à leur instinct de course, de pilote tout simplement, qui sont contraires à la course et donc ça plaît pas forcément. Il y a un arrière-goût très amer. Donc voilà, j'insiste dessus depuis un moment, vous le savez, sur la course, sur l'intérêt de mettre en avant la course et je suis vraiment content de voir. Le milieu même, hein, le paddock en parlait les pilotes, je suis encore plus content de voir les pilotes en parler, ça c'est clair parce que en effet, c'est eux qui courent, c'est eux qui sont concernés par la course et s'il y a des décisions à prendre sur un règlement sportif ou technique, je pense que avoir l'avis des pilotes sans qu'ils soient forcément dans le vote final enfin, mais qu'ils soient dans les réunions pour donner leur avis quand même affûter leur avis expérimenté, leur avis tout simplement de personnes qui sont dedans, qui sont dans le baquet et qui pilotent. À mon avis, c'est très important parce que tout simplement, malheureusement, les différentes instances de la F1 et les différentes réunions, groupes stratégiques, commission F1, malheureusement, se retrouvent de plus en plus éloignés de la course. De la même manière que, par exemple, on pourrait dire que les politiques en France sont de plus en plus éloignés de la vie réelle, tout simplement. Et ben, c'est un peu le même effet en Formule 1, il est vrai. Et il faut retrouver la course, tout simplement. Et Massa n'a pas été le seul. Il a trouvé écho dans les déclarations d'Alonso également. Je cite Fernando Alonso. Les pilotes ne peuvent plus influencer réellement les décisions prises pour le sport. Bam. Bam, déjà, ça c'est fait, c'est dit, et c'est vrai. Nous devrions pouvoir effectuer beaucoup de demandes, mais en vérité, les intérêts des équipes, des sponsors et des différentes sociétés liées de près à la F1 passent avant notre avis, car ils sont bien plus puissants. Mais voilà, on a tout! On a tout dans ces deux déclarations. On a tout, je peux arrêter analyser fin. Il y a tout. Écoutez Massa, écoutez Alonso. Il y a tout dans ces déclarations. Non, mais je vais pas arrêter analyser fin, non. Non, restez sur cette page-là, sur cette page internet. Restez à l'écoute. Je continue à analyser fin, évidemment. Mais vraiment, pour redevenir plus sérieux, les déclarations d'Alonso et de Massa, là, c'est de l'or. Et c'est très important à regarder. Je sais pas si beaucoup... beaucoup de gens les ont vraiment aperçus comme je les aperçois, mais en tout cas, peu importe, car là c'est vraiment très important et je pense pas que c'est passé inaperçu au niveau des grandes instances de la FIA et tout, parce que généralement, les pilotes ils sont là, ils ont un discours de bons communicants, ils vont jamais attaquer, on va dire, les instances de la F1 et tout, enfin, ou ils vont le faire à demi-mot, mais là c'est pas à demi-mot, là vraiment. Les pilotes les plus expérimentés, enfin, deux des pilotes les plus expérimentés, là, dévoilent quand même des choses vraies, et vraiment, là, c'est l'occasion d'ouvrir les yeux, de réunir tout le monde autour d'une table, voire de plusieurs tables, et de parler de la F1, tout simplement. Et quand je dis réunir plein de monde autour de la table, c'est réunir les pilotes, hein, évidemment, pour qu'ils donnent leur avis, au moins. Après, pas forcément, c'est pas parce qu'ils sont pilotes que forcément, ils sont tous, on va dire, bien aguerris pour analyser le sport. C'est comme les footeux, hein. Quand on écoute des footballeurs, des fois, parler de foot, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible que tu comprennes ton sport, en fait. Tu ne comprends pas ton sport. Ça arrive souvent. Là, c'est pareil pour la F1, mais le problème est différent, parce que là, on est vraiment dans un sport où la réglementation change, et souvent, dans le sens inverse de la course. Donc là, c'est important qu'on vienne vers les pilotes pour qu'ils puissent donner leur avis. Et ils en ont envie, ils poussent pour cela et c'est vraiment très bien. Et franchement, on peut que remercier et qu'admirer franchement ces initiatives qui auraient pu venir plus tôt, certes. Mais là, vraiment, à mon avis, il y a un petit ras-le-bol, voire gros ras-le-bol de la part de plusieurs pilotes. Et ils veulent vraiment que tout le monde ouvre les yeux et qu'on revienne à la course, tout simplement. Sans oublier les fans en plus. Donc course, spectacle, passionné. Il faut que tout ça soit ensemble. Hein, et c'est possible. Il ne faut pas juste mettre le spectacle en avant. Parce que souvenez-vous, la plupart des réglementations prises ces dernières années sont prises avec l'argument du spectacle. Et jamais on met la course en fait. Jamais on met la course. On met le spectacle, donc les fans. Hein, mais on met jamais la course. Et là, quand on lit Felipe Massa... qui dit pour la course et les fans, c'est très important la liaison, la conjonction de coordination est très importante. La course et les fans, ça peut pas être dissocié, il faut qu'il y ait les deux, hein, franchement. Et voilà, et Alonso enchaîne bien avec sa déclaration, donc c'est très bien. Donc voilà, il y a ces pilotes expérimentés qui ont parlé. Et en plus, ils ont choisi le bon moment, selon moi. Ils ont choisi le bon moment pour s'exprimer. Car il y a eu la réunion du groupe stratégique, évidemment. Car il y avait le Grand Prix de Monaco ce week-end, qui est le Grand Prix le plus suivi de la saison, très certainement. Le plus prestigieux, le plus unique, un des plus uniques de la saison. Et donc, parler à ce moment-là, c'est quand même se faire entendre deux fois plus que d'habitude, voire plus si affinité. Et en plus, il y a eu l'annonce du GPDA, du Grand Prix Drivers Association, donc l'association des pilotes en gros, hein, pour résumer, il y a eu cette annonce. Donc il y a eu un peu tout cette semaine, enfin la semaine qui est passée. Donc c'était vraiment très pertinent de s'exprimer à ce moment-là. Alors, en parlant de cette annonce du GPDA, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en gros, le GPDA, via trois grandes figures de cette association qui sont Alexander Wurz, Jenson Button et Sebastian Vettel, donc pas d'équidame, Eh bien, ont annoncé une enquête mondiale. Une enquête mondiale sur Internet pour savoir ce que pensent les fans. Cette enquête est disponible sur le site suivant gpda.motorsport.com. gpda.motorsport.com. Et je vous invite vraiment à répondre à l'enquête et à vraiment à y répondre consciencieusement. Parce qu'elle est, longue, cette enquête, elle est relativement longue à répondre. Les questions, selon moi, sont plutôt bien choisies. Je n'ai pas encore tout vu hein, de l'enquête parce que j'ai essayé de la faire le premier jour. Mais leur serveur n'était pas prêt et ça a tout planté en plein milieu. Du coup, je dois recommencer l'enquête. Donc, je n'ai pas tout vu. Mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Les questions posées sont intéressantes pour l'instant de ce que j'y ai vu. Donc, n'hésitez pas à y répondre consciencieusement, très franchement. Et en ayant en tête également les problématiques de la Formule 1 actuelle. En ayant en tête les défauts de la F1. Mais aussi sans aller dans le tout négatif. Nous, il faut pas oublier, je pense. Enfin, ça c'est compliqué de pas oublier que la F1 est un sport qu'on aime, qu'il y a toujours de la course, qu'il y a toujours un suspense, qu'il y a toujours une lutte pour le championnat du monde, qu'il y a toujours du drama. On l'a vu encore ce week-end à Monaco, qui a un peu tout ça. On oublie très souvent parce que pourquoi? Parce que la F1 communique sur les défauts de son sport, ce qui est contre-productif, c'est ce que disait Alain Prost, hein, qui avec la Formule E fait différemment, c'est vrai. La Formule E met jamais en avant les défauts, ne communique jamais sur les défauts de son sport, mais toujours sur ses qualités. Selon moi, c'est très bien et c'est comme ça que la Formule E connaît un bon succès pour sa première saison, un bon succès populaire. Et la Formule 1 devrait également changer de ce côté-là. Ça commence petit à petit hein, via la communication multimédia, mais c'est toujours pas ça concernant les différentes instances etc. Donc attention, il faut bien avoir en tête que la Formule 1 est quand même un sport qu'on aime. Donc si on vote en ayant que du négatif en tête, enfin si on vote, si on répond à l'enquête en ayant que du négatif en tête, ça va pas faire avancer les choses, ça va pas être très pertinent. Voilà, tout simplement. Faut savoir faire la part des choses, tout simplement, et répondre à l'enquête sérieusement. Donc voilà, si vous avez 10-15 minutes à tuer, on va dire, eh bien, n'hésitez pas à répondre à cette enquête disponible, je le répète, sur le site gpda.motorsport.com. Donc voilà, selon moi, cette enquête, c'est une bonne initiative. Si et seulement si les résultats ne sont pas pris au premier degré. Parce que c'est bien beau de faire des questions intéressantes, etc., de bien former l'enquête, mais si ensuite, si c'est pour que les résultats soient pris au premier degré, tel que c'est souvent le cas, hein, quand les instances de la F1 se font le relais des réseaux sociaux, enfin le relais des réseaux sociaux, le relais de ceux qui parlent le plus fort sur les réseaux sociaux, eh bien c'est pris au premier degré. Et du coup, c'est comme ça qu'on parle d'ailleurs des défauts de la Formule 1 et qu'on met pas assez en avant les atouts de ce sport qui sont multiples. Donc voilà, il faudra être lucide en lisant l'enquête et j'espère que le GPDA et surtout les instances de la F1 sauront être lucides et sauront bien analyser les choses. Mais voilà, on peut peut-être être rassuré parce que Alexander Wurtz, dans sa déclaration d'ailleurs liée à l'annonce de l'enquête, a quelque peu montré sa lucidité à ce propos, avec un exemple très précis en plus. Il a appuyé son discours d'un exemple en montrant que justement, quand les fans pensent quelque chose, eh bien Wurtz, lui, il réfléchit à propos de ce que pensent les fans et essaye de trouver la vraie raison et essaye de voilà de décortiquer, on va dire, l'opinion pour sortir quelque chose de sensé, tout simplement. Donc, si lui pense comme ça, il faut espérer qu'également que les personnes qui vont recevoir l'enquête des mains du GPDA vont également tout simplement penser comme ça. Ce serait pas mal. Voilà, parce qu'il faut rappeler que voilà, cette enquête, c'est une enquête qui est publique, donc tout le monde peut y répondre. Donc il n'y a pas un panel. Il n'y a pas un panel de fans de F1 qui est trié sur le volet pour répondre à l'enquête. C'est vraiment tout et n'importe quoi qui va répondre. Donc il faudra vraiment faire la part des choses, hein, d'autant plus avec ce moyen-là. Ça me semble logique. Ça doit servir d'indicateur tout simplement un indicateur qu'il faut analyser et puis il faudra tirer ou non les conséquences pour améliorer la F1, tout simplement, améliorer le sport. Et voilà, il faut pas y prendre comme une enquête contraignante, tout simplement. Donc voilà, je le répète, les pilotes ont choisi le très bon moment, et ça devient vraiment urgent de faire évoluer la F1 dans le bon sens, au lieu de s'éloigner de la course et de ce bon sens par certaines choses. Donc la F1 a plutôt bien commencé la saison avec une meilleure communication multimédia, et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la suite logique des choses, on va dire, pour améliorer la F1. Mais voilà, moi je ne m'emballe pas, j'attends de voir ce qui va être fait, parce qu'on a trop souvent vendu un changement en Formule 1, et on a pu faire tout et n'importe quoi au niveau du règlement, en vantant le spectacle, en vantant des dépassements accrus. Oui, mais s'ils sont factices, à quoi ça sert? Enfin voilà, vous connaissez maintenant ces problématiques, et si c'est pour en créer d'autres, ce n'est pas la peine, il faut que la F1 reste la F1. Donc à mon avis, c'est là vraiment, on va rentrer dans un tournant, dans un changement d'air de la F1, et là, c'est là que ça va nous dire, est-ce que la F1 va revenir dans le bon sens, enfin va aller dans un bon sens, ou au contraire, va s'enfoncer, et on va avoir des problématiques démultipliées, tout simplement. Et bien voilà, c'est la fin de ce podcast. Je tenais vraiment à faire durer un peu cette deuxième chronique parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les déclarations de la semaine passée. J'ai vraiment été agréablement surpris. Je ne m'y attendais pas. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je savais qu'il y avait l'annonce du GPDA, mais je ne m'attendais pas qu'en marge de cette annonce, des pilotes, et en marge de la réunion du groupe stratégique, je ne m'attendais pas à ce que des pilotes élèvent leur voix pour vraiment être très francs avec eux-mêmes, être franc avec le sport et vraiment vouloir agir pour le sport. Et j'espère qu'ils seront écoutés, j'espère qu'ils seront justement aux réunions autour des tables, hein, du groupe stratégique, etc. Et que, un groupe stratégique, parlons-en, hein, de la légitimité du groupe stratégique. Comme le dit Alonso, les intérêts des équipes, hein, qui sont très plus forts, chacun voit le petit bout de son nez, et bien, c'est bien un grand problème. Et d'ailleurs, ah oui, au milieu de tout ce qu'on a discuté, de tout ce que les équipes ont parlé durant la réunion, le sujet, on va dire, de la réduction des coûts et de la répartition des budgets annuels, enfin la répartition de l'argent en fin de saison, eh bien tout ça, ça a été remis à plus tard, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc là encore, ça a gueulé du côté de certaines écuries indépendantes. Il y a eu certaines solutions d'avancée, mais j'en parlerai quand vraiment ce sera plus clair et ce sera, on va dire, quasiment entériné. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à participer à la discussion sur PodCloud, analysef1.podcloud.fr. Et vous pouvez commenter chacune des publications de podcast, hein. Et vous pouvez aussi commenter les podcasts et dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, sur le Twitter d'Analyse F1, @F1Analyse, et sur la page Facebook d'Analyse F1. N'hésitez pas à me rejoindre et puis on discutera ensemble de Formule 1. Je donne fréquemment mon avis à propos de certaines choses, donc n'hésitez pas. Là, en date, j'ai donné mon avis sur Max Verstappen, hein, ce qu'il a fait à Monaco. Bon, à mon avis, j'ai pas trop besoin de dire les choses pour que vous sachiez ce que j'en pense. De toute façon, mon avis, je l'ai dit avant le début de la saison, et ce qui se passe depuis le début de la saison ne me fait pas tellement changer d'avis, pas du tout même, hein. Donc c'était pas couru d'avance, mais bon, c'était quand même bien parti pour se dérouler de cette façon. Voilà, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne semaine. On se donne rendez-vous dans le prochain podcast où je parlerai du dernier e-prix de Formule E. Et je parlerai de ce e-prix en deuxième partie de podcast. Et la première partie de podcast, je ne sais pas. Je trouverai un sujet, ça c'est sûr. Il s'est passé assez de choses durant le Grand Prix de Monaco, je pense, pour que j'aborde un grand sujet. Donc ne vous en faites pas, il y a toujours de quoi dire des choses en Formule 1. Voilà, je vous remercie, portez-vous bien, et en attendant le prochain podcast, vivons notre passion, à bientôt.